Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Depuis un peu plus d'une semaine, avec le docteur Jimmy Mohamed et toute l'équipe de Sans Rendez-vous, nous nous mobilisons dans ce combat contre l'épidémie de coronavirus en France. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez. Et pour ça, il est à côté de moi, enfin chez lui en tout cas, le docteur Jimmy Mohamed. Comment allez-vous, Jimmy ?
Bonjour Mélanie, bah écoutez, ça va pas mal, on commence un peu à s'habituer, même si on a hâte de pouvoir retrouver une vie normale, mais je crois qu'il faut qu'on soit patient. D'ici quelques semaines, on espère que tout rentrera dans l'ordre.
Allez, au programme aujourd'hui, pour répondre à toutes vos interrogations, nous aurons bien évidemment des experts en ligne. Nous commencerons par un point sur les malades les plus sévères victimes du coronavirus. On le sait, dans les services de réanimation en France, la situation est de plus en plus tendue. Nous ferons le point avec un médecin réanimateur, le professeur Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris. Après ça, nous nous arrêterons sur la situation en médecine de ville, notamment dans les cabinets des médecins généralistes. Comment s'organise-t-on ? Sont-ils enfin mieux protégés ? Ont-ils enfin reçu les masques promis par le gouvernement? Nous appellerons le docteur Jacques Battistoni, le président du syndicat MG France. Et puis bien sûr, en première ligne face à cette épidémie, il y a aussi d'autres professionnels de santé, les pharmaciens. Conséquence directe et malheureuse de cette crise, ils sont de plus en plus souvent victimes d'agressions ces derniers jours. La présidente de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolfthal, nous racontera cette situation très tendue dans les officines. Enfin, pour terminer, avec notre psychanalyste et sexologue Catherine Blanc, nous parlerons un peu de sexualité, retour à notre thématique habituelle avec elle. Dans ce contexte de confinement, certains sont confinés tout seuls, loin de leur conjoint ou sans possibilité d'aller rencontrer quelqu'un en cette période d'éloignement physique forcé. Alors comment gérer l'abstinence sexuelle imposée à certains? Elle nous répondra.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Bruno Mégarban, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, ravi de vous recevoir à nouveau. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur de l'hôpital Lariboisière à Paris. On vous avait déjà reçu la semaine dernière par téléphone et vous nous aviez expliqué que dans votre service de réanimation, habituellement, vous ne soignez pas les infections respiratoires. Hein. C'est quoi déjà l'activité habituelle de votre service ?
Alors nous soignons en fait tout type de patient qui présente une défaillance vitale ou un risque grave pour sa santé. Néanmoins, nous avons une spécialité un peu plus marquée qui est la prise en charge des patients gravement intoxiqués. Et donc depuis évidemment la crise de Covid-19, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des patients qui sont hospitalisés dans le service sont infectés et gravement infectés par le virus.
Jimmy Mohamed ?
Et donc là, professeur, quel est l'état des lits actuellement? Est-ce que la part de malades atteints de coronavirus augmente? Est-ce que vous êtes déjà aux capacités de saturation ou vous avez encore un petit peu de marge?
Alors, comme vous l'avez probablement lu, au jour d'aujourd'hui en France, à peu près 2100 cas graves sont hospitalisés dans les services de réanimation. Donc, il faut savoir qu'il existe un potentiel de lits équivalent à peu près 5000 lits avec possibilité de ventilation. Donc, nous approchons de la moitié du potentiel total. Alors, c'est exactement le cas dans la région Île-de-France. France, où nous avons aujourd'hui à peu près 850 patients gravement infectés, donc admis dans les services de réanimation, avec un potentiel actuel de 1200 lits qui peut aller jusqu'à 1500 lits. Donc c'est pareil.
En poussant un peu les murs, hein, c'est ça, parce qu'on pousse les murs un petit peu.
Exactement. Ouais. C'était pareil un peu dans notre hôpital. Donc habituellement, nous avons une quarantaine de lits et nous avons la capacité de tripler ce nombre de lits ventilés, comme vous le dites, en poussant les murs. Il est très probable que les deux facteurs limitants seront le personnel non médical, donc le personnel soignant, et le nombre de ventilateurs.
D'accord. Et justement, vous avez combien de places encore, je dirais, dans votre service? Enfin, combien de lits sont encore libres pour accueillir des patients qui arrivent encore nombreux, hein, tous les jours?
Alors en fait, en permanence, nous adaptons le nombre de lits disponibles. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons encore une dizaine de lits armés avec ventilateurs, personnel dédié, capable de prendre en charge des patients gravement infectés s'ils se présentaient aux urgences ou si évidemment des patients déjà admis dans l'hôpital, dans les services de médecine, présentaient des signes de gravité et devaient être transférés pour subir une ventilation mécanique.
Jimmy ?
Est-ce que vous commencez à voir l'effet du confinement? Là, on est à on est à une semaine. Est-ce que dans les services de réanimation, vous avez l'impression que le flux est moins important ou au contraire que pour l'instant, on va falloir être patient et être endurant car le pire est peut-être encore devant vous?
Alors non, je pense que si effet il y a de ce confinement, il ne faut pas en attendre les résultats avant une quinzaine de jours. En fait, nous avons à peu près une semaine à une semaine et demie de retard par rapport à ce qui se passe en Italie. L'idée, évidemment, d'avoir instauré ce confinement, qui a d'ailleurs été fait un peu plus précocement qu'en Italie, avec à ce moment-là deux fois moins de personnes infectées, eh bien, probablement d'aplatir un tout petit peu la courbe et d'éviter d'arriver à un nombre très important de patients gravement malades, saturant l'offre de soins. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en plein dans la vague. Il est prévu que celle-ci, d'ailleurs, s'accroisse dans les jours qui viennent, avec possiblement une acmé prévue dans une dizaine de jours. Et donc là, nous voyons arriver les patients très régulièrement, certains moins gravement malades et d'autres extrêmement gravement malades, justifiant d'emblée l'admission en réanimation et le recours à des techniques de ventilation artificielle. Mmh.
Et les gens, vous, qui souffrent d'intoxication, votre patientèle habituelle, je dirais, ils vont où, du coup? Vous avez encore de la place pour les accueillir ou ils sont réenvoyés ailleurs, je veux dire?
Alors, en fait, il faut noter tout d'abord que le nombre de patients qui viennent aux urgences s'est réduit d'à peu près 25%. Ceci est lié, premièrement, au fait que un certain nombre de pathologies, notamment traumatologiques, liées aux accidents de la route, de vélo, un certain nombre de bobologies, s'est réduit considérablement. Et aussi, probablement, au départ de l'Île-de-France d'un certain nombre de personnes. Reste évidemment qu'il est très important de pouvoir garantir la filière des patients qui ne sont pas infectés par le coronavirus, et notamment la filière des patients intoxiqués. Alors nous avons bien sûr un secteur de réanimation dans l'hôpital qui est dédié aux patients non infectés par le virus.
Et parce qu'on ne les mélange pas, c'est ça aussi. L'idée, c'est de contaminer ceux qui ont autre chose, hein, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que les patients infectés par le coronavirus sont dans un secteur de l'hôpital et les patients non infectés dans un autre secteur. Évidemment, ils sont regroupés entre eux, donc notamment des patients en post-opératoire, des patients de réanimation médicale plus classique, des patients intoxiqués sont regroupés dans ce secteur qui normalement ne contient pas de patients infectés par le coronavirus. Et nous avons un certain nombre de patients intoxiqués parmi ceux-là, mais il faut l'avouer, en nette diminution par rapport à ce que l'on reçoit habituellement.
Jimmy ?
Et comment vont vos équipes ? Est-ce qu'elles montrent déjà des signes de fatigue ? Est-ce que physiquement et moralement, tout tient, puisqu'on n'est qu'au début encore, malheureusement ?
Alors, c'est un challenge, effectivement, pour tout le monde, pour les médecins. Et comme vous le savez, l'actualité, malheureusement, nous a montré que nous sommes en première ligne avec un risque important d'infection grave, voire de décès. Mmh. Le personnel paramédical, je crois que le moral est bon. Tout le monde est motivé. Et le but, effectivement, c'est de bien organiser la rotation du personnel pour éviter des burn-out ou des fatigues extrêmes. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en forme et prêt à travailler.
Et justement, j'allais vous demander, parce que vous dites, donc effectivement, on le comprend, vous êtes particulièrement exposé, vous les soignants en réanimation. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, quand plus on est sévèrement atteint, je dirais, plus on est contagieux, c'est ça, le taux de virus, il est plus important. Donc vous êtes peut-être encore plus à risque, je sais pas, que les généralistes, que les autres, tous les soignants sont clairement à risque. Mais est-ce que vous, en réanimation, plus particulièrement que les autres, je ne sais pas?
Alors effectivement, il existe probablement une certaine relation entre la gravité de la présentation clinique et le risque de contagiosité. Ce d'autant plus que nos patients qui sont admis en réanimation vont subir des gestes techniques qui directement intéressent les voies respiratoires. Par exemple, un certain nombre d'aspirations dans la bouche ou dans la trachée, le geste d'intubation orotrachéale lui-même, la ventilation mécanique, un certain nombre d'appareils qui vont oxygéner de façon très agressive la personne. Et tous ces gestes exposent au risque de répandre les particules virales par aérosol dans la chambre, notamment par exemple si le médecin, probablement les médecins qui sont décédés ont possiblement tout au début de l'épidémie, au moment où en fait les premiers cas sont arrivés, possiblement effectuer ce type de geste sans protection. Mmh. Et donc effectivement pour nous, nous sommes probablement plus exposés que d'autres, et nous donc il est bien sûr recommandé strictement de mettre un masque FFP2 lors de toute manipulation au niveau des voies respiratoires des patients.
Merci beaucoup professeur Megarban. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Avec nous en ligne aujourd'hui plusieurs experts. Le professeur Megarban, médecin réanimateur, reste avec nous pour répondre à vos questions, notamment sur les patients les plus sévèrement atteints. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans Rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission toujours aujourd'hui évidemment consacrée à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs n'hésitez pas à nous interroger, c'est au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Alors il est toujours en ligne avec nous le professeur Bruno Megarban. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital Lariboisière à Paris. Professeur Megarban, des questions d'auditeurs, on en reçoit beaucoup ici, notamment sur le hashtag Radio Ouverte. Alors on a celle de Timothée qui nous demande à partir de quand on décide de placer un patient en réanimation. Est-ce que ce sont des gens qui ont trop tardé avant de consulter et qui du coup vous arrivent déjà à l'hôpital dans un état critique, ou est-ce qu'ils atterrissent en réanimation après déjà plusieurs jours d'hospitalisation?
Alors nous avons les deux types de patients. Effectivement, ceux pour lesquels la maladie progresse lentement, ce sont des patients qui ont d'abord consulté leur médecin traitant. Puis la situation s'est un tout petit peu aggravée, ils sont arrivés aux urgences, ils ont été admis dans un service de médecine et malheureusement la maladie continue à progresser et ceci se reflète principalement par un besoin croissant d'oxygène. Donc en fait on va augmenter progressivement le débit d'oxygène nécessaire pour permettre l'oxygénation de l'ensemble des tissus. Et à ce moment-là, effectivement, lorsqu'on atteint un débit important, lorsqu'il existe des signes de détresse respiratoire, c'est-à-dire la personne va chercher l'air, il est temps d'aller en réanimation pour un monitorage et une surveillance beaucoup plus précise et éventuellement le recours à des techniques d'oxygénation plus agressives avec des débits élevés d'oxygène ou à l'intubation et à la ventilation mécanique. Mmh. Il existe aussi un deuxième type de patients qui, eux, vont avoir une maladie beaucoup plus agressive, qui peut effectivement très brutalement s'aggraver. Et à ce moment-là, des patients sont amenés aux urgences et d'emblée, ils sont intubés, ventilés et transférés en réanimation. Ils ont parfois non seulement une atteinte respiratoire, mais aussi des atteintes d'autres organes, notamment le rein ou le cœur, avec des aspects d'inflammation du cœur.
Le rein, c'est directement lié, et le cœur, c'est directement lié au virus, ou c'est parce que, au niveau respiratoire, dès que ça s'aggrave, ensuite les autres organes trinquent, entre guillemets?
Alors, il y a les deux situations, mais on pense quand même qu'il existe possiblement une atteinte directe de certains organes, le rein, le cœur, le sang, avec une hyperviscosité inflammatoire et un risque de caillots, de formation de caillots et d'embolie pulmonaire, parce qu'en fait, il y a une réaction inflammatoire de l'ensemble de l'organisme. Elle est bien sûr beaucoup plus importante au niveau du poumon et empêche l'oxygénation, mais également au niveau de l'ensemble du corps et peut-être à l'origine de complications extra-respiratoires.
Très intéressant en tout cas. Jimmy ?
Ce matin, j'ai vu une dame de 70 ans qui toussait avec de la fièvre depuis 10 jours. À la maison, tout le monde avait à peu près le même tableau et aujourd'hui, elle s'est aggravée avec une détresse respiratoire. Elle a donc été hospitalisée et on sait que les malades peuvent soit se dégrader entre le 5e et le 10e jour globalement ou d'emblée dans les 24-48 heures. Est-ce qu'on a plus de malades qui se dégradent dans un second temps ou la plupart sont graves d'emblée, et est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi certains vont mettre 10 jours à se dégrader et d'autres vont mettre finalement que une ou deux journées? Est-ce qu'on a un petit peu de recul désormais?
Alors effectivement, pour la majorité des patients que nous recevons en réanimation, on a l'impression qu'ils sont à J7, J8 du début des symptômes. Néanmoins, comme vous le savez, il n'est pas toujours évident de chiffrer précisément la date du début des choses, puisque parfois le patient peut rester très asymptomatique au départ, malgré l'infection qui progresse. Ouais. Voilà. Et puis il existe aussi des formes atypiques, sans tout nécessairement, sans fièvre, avec parfois des douleurs abdominales. abdominales, des vomissements, et donc il est souvent difficile de chiffrer. Néanmoins, l'impression globale, c'est que les choses s'aggravent nettement entre J7 et J8. Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas très clairement pourquoi certaines personnes vont présenter une aggravation à ce moment-là, alors que d'autres, finalement, le tableau va se résoudre et ils n'auront développé qu'une infection banale oropharyngée. Mais évidemment, des études sont en cours pour le savoir. Très probablement, le terrain immunitaire joue un rôle important.
Alors, professeur Mégarban, on a une autre question de Marie-Lise qui nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Elle a vu sur des vidéos sur Internet de patients de coronavirus, donc atteints de coronavirus en réanimation, toujours allongés sur le ventre. Pourquoi cette position, demande-t-elle, pour les malades qui ont besoin d'aide artificielle pour respirer ?
Alors effectivement, c'est vrai. En fait, toutes ces vidéos probablement sont vraies et réellement prises dans des services de réanimation. Effectivement, on commence d'abord de façon classique à ventiler le patient sur le dos. Et puis, bien sûr, on monte la quantité d'oxygène jusqu'à ventiler en oxygène pur les patients. Puis, parfois, malgré ces manœuvres techniques, le patient n'est pas oxygéné de façon satisfaisante. Et à ce moment-là, en le retournant sur le ventre, eh bien, on va améliorer l'oxygénation en améliorant le rapport entre l'apport d'oxygène et la capacité du poumon à oxygéner le sang.
Et il fonctionne mieux sur le ventre, le poumon, alors comme
Alors, sur le ventre, mais on doit bien sûr retourner le patient une douzaine d'heures après. Donc, en fait, le patient va faire le décubitus ventral, puis le décubitus dorsal. Et ainsi, on améliore l'oxygénation. Alors, toutes ces techniques, faut savoir, toutes ces techniques, faut savoir, nécessitent évidemment une sédation profonde, c'est-à-dire, en fait, l'apport de produits anesthésiologiques profondes.
Mais j'allais vous dire, parce que c'est la question suivante aussi, de Bertrand qui nous demande si vos patients, ils sont tous conscients, toujours plongés en coma artificiel ou pas en réanimation?
Voilà, quand on est au stade de ventilation mécanique, pour ce type de problème respiratoire, on est généralement sédaté. C'est-à-dire on reçoit des médicaments qui font dormir, mais aussi on est ce que l'on appelle curarisé, c'est-à-dire on reçoit du curare qui est un paralysant des muscles pour faciliter l'oxygénation et diminuer la consommation musculaire, notamment diaphragmatique, d'oxygène. Et donc l'oxygène à ce moment-là peut être réservé au cerveau et au cœur, qui sont les deux organes les plus vitaux.
Jimmy Mohamed ?
Professeur, quid de la chloroquine? On en parle beaucoup, certains parlent d'un remède miracle, d'autres disent qu'il y a des risques d'intoxication. Vous êtes un des référents justement dans les intoxications, quel est votre avis? Est-ce que vous la testez notamment chez les patients qui sont très graves?
Alors effectivement, depuis quelques jours, ce débat a envahi les médias avec un buzz extrêmement important. Je dirais, il faut être raisonnable effectivement. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune indication, parce qu'il n'existe aucune preuve d'efficacité à donner ce traitement pour les personnes qui ont une infection simple, mineure, suivie en ambulatoire. Ce d'autant plus qu'effectivement, le mauvais usage de ce médicament, voire le surdosage, pourrait entraîner des complications cardiaques graves, et je ne parle pas des effets secondaires mineurs digestifs, à titre de nausée ou de vomissements, mais des problèmes cardiaques graves du rythme cardiaque avec un risque de décès. D'ailleurs, peut-être il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis déjà, il a été rapporté une ou deux personnes décédées suite à la prise de Nivaquine par automédication. Ce
prudence,
traitement,
prudence.
Il faut l'administrer de façon très prudente. En tout cas, pour ma part, il n'existe pas d'indication à le donner pour des personnes non hospitalisées. Maintenant, en réanimation, et comme ce matin précisé par le Conseil de santé publique, le Conseil de santé publique et le ministre de la Santé, évidemment, pour les patients les plus graves hospitalisés en réanimation, c'est une possibilité thérapeutique que l'on peut envisager de façon, après discussion collégiale, idéalement dans le cadre de protocoles.
Vous ne l'avez pas encore fait, vous, hein, à Larry Boisière, j'ai l'impression.
Alors, si, bien sûr, je l'ai déjà administré à un certain nombre de patients, mais vous voyez, toutes ces. Parce qu'en fait, les essais thérapeutiques n'avaient pas encore démarré. Alors, c'est ça qu'en fait, il faut se garder de donner des nouvelles précipitées. Mon impression quand même très claire que au jour d'aujourd'hui, ça ne modifie pas de façon significative non seulement l'évolution de la quantité de virus que porte l'individu, mais également de la gravité des symptômes. Mais évidemment, on pourrait me dire, mais si je n'avais pas donné le médicament, peut-être que les choses auraient été plus graves. C'est tout, tout ça bien. Montre bien la nécessité, bien sûr, de faire des études. Donc,
merci beaucoup, professeur Magarban. On l'a compris, donc faire des études. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors qu'on le sait, vous êtes très occupé. On vous laisse retourner à vos patients. Merci encore et on pense bien à vous, et à vos équipes.
Merci à vous.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. Nous appellerons le docteur Jacques Battistoni. Il est président du principal syndicat des médecins généralistes, MG France. Avec lui, nous ferons un point sur l'état de la médecine libérale en cette période de crise sanitaire. Plusieurs médecins sont déjà décédés, ce qui ne doit pas aider à maintenir le moral des troupes. Et pourtant, ils restent tous extrêmement mobilisés. Il va nous raconter tout ça. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille par téléphone à présent le docteur Jacques Battistoni. Vous êtes généraliste et le président du syndicat MG France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Battistoni, comment allez-vous d'abord? Vous consultez toujours? Votre cabinet est toujours ouvert, par exemple?
Oui, mon cabinet est toujours ouvert. Je fais le maximum de téléconsultations pour éviter les contacts avec les patients, pour leur éviter de se déplacer aussi. Mais je consulte pour mes patients chroniques, pour les patients qui ont une maladie qui nécessite un traitement régulier. Et puis aussi pour voir certains patients, parce que c'est indispensable de temps en temps de pouvoir les ausculter notamment.
Bien sûr. Alors hier, on l'a appris, 5 médecins, notamment dans l'Est, région particulièrement touchée, sont décédés à cause du coronavirus. J'imagine que ça a dû être très difficile à encaisser pour vous, les médecins, sur le terrain.
Oui, les médecins généralistes notamment ont vraiment ressenti ça douloureusement, en particulier parce que beaucoup d'entre eux, à juste titre, se plaignent de ne pas disposer de protection suffisante et ils se sont dit que ça pourrait être aussi leur tour à un moment donné. Et donc c'est notre devoir effectivement de soignants de nous protéger pour pouvoir continuer à soigner les patients.
Il est généraliste lui aussi, docteur Jimmy Mohamed?
Oui, c'est vrai que j'ai des confrères, notamment SOS Médecins. Nous sommes de plus en plus nombreux à être malades. Et vous, de votre côté, vous avez des remontées justement de généralistes qui sont malades? Est-ce qu'ils continuent de travailler? Est-ce qu'ils ont des formes mineures? Comment vont les médecins qui sont peut-être atteints? Est-ce qu'il y en a tant que ça d'ailleurs?
C'est très difficile de faire un comptage, bien entendu. Nous, on a beaucoup d'informations qui nous remontent à notre syndicat, de médecins qui me disent « je travaille » ou « mon associé est malade » et « je travaille encore ». Enfin, on a comme ça, plein d'exemples, avec des formes la plus souvent mineures, bien entendu, comme le reste de la population, mais voilà, c'est un phénomène vraiment fréquent.
D'ailleurs, je crois qu'étant donné le nombre de généralistes qui commencent à tomber malades et qui doivent se confiner ou arrêter de travailler, vous demandez aux autorités, surtout aux assureurs, qu'ils fassent un geste et vous suppriment, à vous, médecin, le délai de carence en cas de maladie, hein?
Oui, tout à fait. La problématique que soulèvent les médecins, c'est que leurs revenus sont en baisse. Beaucoup de médecins voient moins de patients aujourd'hui parce que les consignes sont bien passées. Les gens savent qu'ils peuvent faire renouveler leur ordonnance directement chez le pharmacien. Les gens savent qu'il faut éviter de se déplacer. Donc, d'un côté, on a des médecins qui prennent des risques parce qu'ils voient des patients qui présentent de toute évidence des symptômes de coronavirus. Et puis, de l'autre côté, ont des revenus qui sont en baisse. Et donc, c'est vraiment important que pour ces médecins, s'ils sont malades, en plus, ils ne soient pas pénalisés par 15 jours d'arrêt et 15 jours de mauvaise indemnisation, parce que les indemnisations qui nous sont proposées ne permettent pas de combler les charges du cabinet. Donc on a demandé au moins la suppression de ces jours de carence qui pénalisent. Si vous êtes arrêté 2 semaines et que ces 3 premiers jours, vous ne touchez rien, c'est évidemment problématique.
Ça me semble effectivement le strict minimum, Jimmy.
Où est-ce qu'on en est d'ailleurs au niveau de la protection des généralistes? Est-ce que les masques qui sont attendus, on nous explique, là j'entends depuis 3 semaines que les masques sont là, ils vont arriver.
Vous en avez, vous, Jimmy, les masques, ça y est?
Non, jusqu'à... Alors on m'avait promis une commande, j'y suis allé, c'était des masques chirurgicaux classiques et pas des FFP2. On arrive à se débrouiller, en avoir un ou deux par-ci par-là. J'en ai même donné un à une infirmière à domicile qui allait faire la tournée des malades, puisque les infirmières sont aussi responsables du suivi des malades qui ont le coronavirus lorsque le diagnostic est posé, et elles sont aussi pas équipées. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez du gel? Parce que nous aussi, on n'en a pas, des masques. Est-ce que la protection est au rendez-vous?
Bah, c'est très variable suivant les endroits. Il y a beaucoup d'endroits où les médecins se plaignent de n'avoir que des masques chirurgicaux. Moi, en ce qui me concerne, on a touché quelques masques dans les pharmacies, quelques FFP2 qui protègent mieux, effectivement. Beaucoup de médecins aussi se plaignent de ne pas pouvoir donner des masques chirurgicaux aux patients quand ils sortent de leur cabinet parce que ça leur paraît difficile de ne pas les protéger eux-mêmes. On a longtemps dit au début de l'épidémie que pour avoir une protection efficace, il fallait qu'à la fois le soignant, mais aussi le malade, portent eux-mêmes un masque. Et c'est cette double protection qui assurait une garantie suffisante. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de protéger l'un et l'autre. Et ça, les médecins le ressentent mal, évidemment.
Docteur Battistoni, est-ce que vous arrivez encore à prendre en charge, vous disiez, vos cabinets, pour beaucoup, vous essayez de les garder ouverts. Est-ce que vous arrivez à prendre en charge les petits et les gros bobos du quotidien? Je pense que j'ai l'impression quand même, enfin moi c'est avec les gens autour de moi, ma famille avec qui j'échange, que beaucoup de gens qui sont malades, un peu malades, beaucoup malades, ils n'osent même plus forcément consulter, ils ont peur de maintenant de vous encombrer, de déranger. Votre message, c'est de dire, attends, les cabinets restent ouverts, qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle avant de venir, c'est quoi la marche à suivre pour les autres bobos, je dirais?
Voilà, le message principal, c'est, vous l'avez dit, c'est votre médecin généraliste est là, il travaille, il est prêt à vous écouter, à vous recevoir. Il y a différents moyens à notre disposition. J'ai dit tout à l'heure, la téléconsultation, ça permet de régler pas mal de problèmes. Les consultations présentielles dans un cadre sécurisé avec un patient à la fois dans le cabinet et un patient à la fois dans la salle d'attente, c'est possible aussi. Le conseil principal, c'est appeler votre médecin traitant, il trouvera une solution. Il ne faut pas que les gens arrêtent de nous consulter et puis on va avoir tout d'un coup un rebond parce que on va avoir plein de problèmes, notamment psychologiques, qui vont apparaître.
Docteur Battistoni, on a une question au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 à laquelle vous pourrez peut-être répondre. C'est Bella Gila qui nous l'a posée, on l'écoute.
Par rapport au coronavirus, j'ai un peu mal à la tête, à la gorge et un peu mal à la poitrine. Dois-je m'inquiéter, sachant que je n'ai pas de fièvre? Merci.
Docteur Battistoni, ces patients comme Bella Gila, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit consulter ou pas? Je ne sais pas.
Le problème, c'est que l'infection à coronavirus peut prendre des aspects très différents, surtout dans les phases de début. On voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours de la fièvre. On sait qu'il y a même des gens qui sont porteurs sains. On sait que les personnes âgées ont parfois plus souvent des troubles digestifs. Le seul conseil qu'on peut donner vraiment à quelqu'un, dès lors qu'il se pose une question et qu'il s'interroge sur ça, c'est d'appeler son médecin traitant.
Et avec ce genre de symptômes qui ne sont pas forcément très graves, il est quand même nécessaire d'avoir une auscultation dans la vraie vie, je dirais. Vous devez, je ne sais pas, écouter au moins les poumons, un minima, c'est important ou pas nécessairement?
Ça dépend des fois. On peut s'assurer avec une téléconsultation. On a des lignes de directrices que nous avons écrites avec le ministère de la Santé qui permettent de voir à quel moment c'est possible de faire une téléconsultation et à quel moment il est indispensable de passer par un examen clinique, une auscultation des poumons notamment. Donc on sait assez bien évaluer les choses, notamment téléconsultation.
Merci beaucoup docteur Battistoni d'avoir été notre invité. Nous vous souhaitons évidemment beaucoup de courage pour la suite. Ce combat ne fait que commencer malheureusement. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons parler d'une autre profession de santé qui est en première ligne et surtout mise à mal avec cette crise sanitaire, les pharmaciens. La présidente de l'ordre, Karine Wolfthal, sera notre invitée. Elle s'insurge notamment contre les agressions du personnel dans les officines, de plus en plus fréquentes ces derniers jours. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Vandel. Demain, dans Culture Média, l'émission Pièce à conviction de France 3 qui pose cette question passionnante. Les agriculteurs vont-ils sauver la planète? Et puis la chanteuse Yael Naïm pour son nouvel album Night Songs.
Europe 1, Culture Média.
À demain, 9h30. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. Depuis quelques jours, vous l'avez compris, hein, notre émission s'adapte évidemment. Nous restons mobilisés pour vous informer, mais depuis chez nous, grâce à des moyens techniques exceptionnels. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour dire un grand merci à tous ceux qui s'activent encore depuis les locaux d'Europe 1 pour rendre tout cela possible. Alors à présent, on accueille par téléphone la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolfthal. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, nous vous avions déjà reçu la semaine dernière dans cette émission. Comment les choses ont évolué depuis? Je crois que vous vouliez commencer par un point qui nous a assez inquiété. Les pharmaciens d'officine sont débordés, ça on s'en doute, mais en plus, maintenant, ils sont de plus en plus souvent victimes d'agressions, c'est ça?
Oui, absolument. Malheureusement, on déplore, mais d'ailleurs, comme d'autres professionnels de santé, hein, les infirmières qui se font agresser dans leur véhicule pour vol de matériel. À la pharmacie, on constate beaucoup d'agressivité, toujours pour les mêmes sujets, avoir des masques, avoir du gel hydroalcoolique, en fait, et cette incompréhension de la population de pas avoir accès à ces dispositifs de protection. Donc, il y a beaucoup d'anxiété derrière. Et si je peux me permettre aussi une interprétation personnelle, je pense que le confinement n'aide pas. Le sûr. Fait d'être confiné dans les appartements parfois petits stresse beaucoup les gens et du coup déverse leur stress. Quand ils sortent
chez vous, ils se défoulent.
C'est ça, c'est un peu ça. c'est évidemment dangereux, bien sûr. On a un système d'alerte où les pharmaciens peuvent déclarer les agressions en ligne. Et effectivement,
ça donne quoi niveau chiffres, justement?
Bah, là, on compare, par exemple, pour la même semaine de l'année dernière, on était on double ou on triple quasiment le nombre d'agressions et elles sont tout le temps liées au Covid, plus ou moins directement.
Ça peut aller jusqu'à l'agression physique ou c'est des insultes? C'est quoi comme agression?
Ah oui, non, ça va jusqu'à l'agression physique, agression à l'arme blanche, etc., menace de mort. Ah oui. Non, ça va très loin. Ça va très loin, malheureusement.
Jimmy Mohamed.
Donc, comment
est-ce que les chiffres ne sont pas sous-estimés, puisque les quelques fois où j'ai dû me rendre à la pharmacie pour récupérer du matériel, j'ai effectivement senti un climat très électrique, un climat que je ne retrouve pas, en tout cas avec les patients lorsque je les vois. J'ai l'impression que les patients se comportent différemment dans une pharmacie. Est-ce que vous ressentez un stress au niveau des pharmaciens? Moi, j'ai l'impression que ils subissent. Mais jusqu'à quand? Est-ce que vous pensez que ça va pas être néfaste un petit peu sur leur morale et puis sur leur activité sur le long terme?
Oui, alors c'est vrai qu'on encourage évidemment beaucoup les pharmaciens à se protéger dans tous les sens du terme, à se préserver, à mettre les équipes au repos, à par exemple dispenser par le guichet de garde, parce qu'il y a aussi la crainte d'être contaminé soi-même, hein, bien sûr, soi et sa famille, donc et comme tous les autres professionnels de santé, on manque de masques, de gants et de protection. Donc, on donne des recommandations pour, bien sûr, respecter les mesures barrières, mais aussi la distanciation sociale, donc pour éviter au maximum la contamination, de mettre les équipes au repos. Après, très honnêtement, avec le confinement, l'activité va diminuer. Et d'ailleurs certains pharmaciens commencent à mettre du personnel au chômage technique. Donc les choses, j'espère, vont s'apaiser. Mais il en reste pas moins qu'il y a une grosse pression et une grosse demande de la population d'être renseignée et d'avoir accès, bien évidemment, aux pharmaciens.
Bien sûr, Karine Wolftal, la délivrance de paracétamol a été encadrée il y a quelques jours, car justement, je me demandais ce que ça donnait en pharmacie. Les gens, ils le comprennent que vous pouvez pas leur donner plus d'une boîte quand ils ont rien de spécial niveau symptômes, je veux dire. Hein. D'ailleurs, on en est où des stocks de paracétamol? Ça va toujours?
Oui, ça va toujours. Et justement, c'était important de prendre cette mesure pour éviter qu'on en arrive à des situations de rupture, de voir, entre guillemets, la même chose qu'on a vu sur les pâtes et le riz, des comportements de stockage, de voir sur les médicaments. Ça aurait été évidemment un problème sur le paracétamol. Non, les gens le comprennent. Ils savent qu'ils peuvent prendre une boîte si c'est en préventif et deux boîtes en cas de symptômes. Et puis, ils savent que dès qu'ils ont des symptômes, ils peuvent avoir accès à une prescription, y compris par téléconsultation.
Bien sûr.
Et avec une prescription, bien évidemment, on délivre la totalité du traitement. Donc, c'est une boîte ou deux boîtes qui permettent d'attendre la consultation et l'ordonnance qui, là, permet d'avoir un traitement complet de paracétamol. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour les patients et pour les Français d'avoir accès au paracétamol.
Jimmy?
Et puis aussi, j'ai remarqué une angoisse des patients lorsqu'on leur prescrit du paracétamol. Ils veulent du paracétamol et ne savent pas forcément que l'équivalent est la même molécule. C'est du doliprane, de l'efferalgan et du dafalgan. Et parfois, ils refusent d'apprendre du dafalgan puisqu'on leur a dit prenez du paracétamol. Est-ce qu'il n'y a pas un petit travail de pédagogie pour expliquer aux gens que le dafalgan, le paracétamol, le doliprane sont exactement la même chose?
Oui, c'est le travail du pharmacien, bien évidemment, de conseil à chaque boîte de paracétamol délivrée, dans les deux sens. Hein. Quand on donne du doliprane, on dit, vous vous souvenez que c'est du paracétamol, la même chose que l'efferalgan, etc. Donc, n'ajoutez pas. Et de la même manière, quand on a des médicaments qui associent plusieurs molécules dont du paracétamol, on précise toujours qu'il y a du paracétamol et que donc il faut aussi limiter les autres prises de paracétamol. Donc ça fait partie du conseil du pharmacien
Et de ce que vous devez faire tous les jours. Merci Karine Wolfthal, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient, des questions médicales ou du quotidien sur le coronavirus. Vous nous en avez encore laissé beaucoup aujourd'hui. Notre invitée, la présidente de l'Ordre des pharmaciens, nous aidera justement à vous répondre. Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors nous sommes toujours en ligne avec Karine Wolfthal, vous êtes la présidente de l'Ordre des pharmaciens. Alors tout à l'heure, vous nous avez raconté que les agressions dans les officines étaient en forte augmentation, et on le déplore bien évidemment, mais est-ce que la pénurie de masques, ou en tout cas le fait que vous en donniez pas à la population sans symptômes, fait partie vraiment des motifs de confrontation au comptoir de l'officine ?
Oui, absolument, parce que à chaque fois que le ministère annonce l'arrivée de masques dans les officines à destination des professionnels de santé, ça génère malgré tout une demande de la part de la population qui souhaite en avoir également. Et puis surtout, ils ne comprennent pas pourquoi dans la rue, ils voient tant de personnes avec des masques.
C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Moi, je me demande où ils les trouvent, ces gens, hein.
Et ben voilà, c'est ça.
Mais c'est pas vous qui les donnez, on est d'accord, parce qu'ils n'ont pas l'air malades. Moi j'ai des gens qui passent promener leur chien devant chez moi toute la journée, ils ont tous des masques. Je me demande bien où ils les trouvent.
Et bien voilà, c'est malheureusement beaucoup de marchés noirs. Vous savez qu'il y a des vols en quantité astronomique dans les hôpitaux, notamment. Hein, c'est des dizaines de milliers de masques qui sont volés tous les jours dans les hôpitaux et qui se retrouvent sur le marché noir. Bon, après, il n'y a évidemment pas que ça. C'est des personnes qui ont pu avoir des stocks même pour des raisons diverses et variées par le passé. Ce sont des personnes qui ont pu aller consulter et à qui on a donné des masques, parce que c'est ça la procédure, hein. c'est quand un patient va consulter et que le médecin estime que...
S'il le garde 4-5 jours, ça ne vaut plus rien, on est d'accord, hein. Ça ne sert à rien,
on est d'accord.
À garder plusieurs jours, voilà, c'est ça.
Vous savez, il y a beaucoup de mésusages du masque, hein, parce que si on regarde comment, pour qu'un masque soit efficace, d'abord il faut bien laver les mains, désinfecter avant de le poser, et en plus on ne doit plus y toucher après. Et dès l'instant où on y retouche, soit pour le repositionner, soit pour le mettre sur le menton ou autre, eh bien le masque n'est plus efficace. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de mésusages de ces masques-là. Et puis rappeler aussi qu'ils sont qu'ils ne durent que 3 ou 4 heures pour certains. Donc voilà, donc c'est plutôt, j'allais dire, psychologique entre guillemets d'avoir ce masque, à part bien sûr pour les personnes qui pourraient contaminer parce qu'ils ont des projections.
Et on en profite pour rappeler que ce qui est le plus efficace, c'est de rester chez vous, messieurs, dames qui nous écoutez, évidemment. Jimmy Mohamed ?
Oui, bon, écoutez, après, on peut ne pas forcément partager la même opinion. Des études montraient, notamment en Asie, lors de l'épidémie du SRAS, que lorsque la population massivement mettait des masques, ça permettait quand même de réduire les symptômes. Alors maintenant, on nous dit qu'il mieux vaut les réserver aux professionnels de santé, puisqu'ils sont en première ligne, et vous avez entièrement raison, et en porter seulement si on est malade. Mais est-ce que vous avez eu suffisamment de masques, vous, les pharmaciens, dans les officines, pour justement les distribuer aux médecins? Moi, j'ai le sentiment que vous avez été sous-dotés, et j'ai dû faire plusieurs pharmacies avant d'en avoir une, et pour récupérer souvent la dernière boîte.
Oui, c'est vrai, les dotations sont très limitées. Et ce qui est surtout difficile pour nous, c'est qu'on ne sait pas combien et quand on les reçoit. Donc, du coup, quand on reçoit, par exemple, un lot de 500, on ne sait pas pour combien de temps on l'a et pour combien de personnes on doit le répartir. Donc, du coup, c'est vrai que certains pharmaciens ont tendance à être prudents et en garder pour le dernier des professionnels de santé qui va venir et en avoir toujours un peu, et puis d'autres qui distribuent tout de suite tout.
Premier arrivé, premier servi, oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, la liste est longue des personnes qui en ont besoin, parce qu'il ne faut pas oublier les personnes qui se rendent à domicile et qui sont malheureusement souvent les derniers servis, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est très difficile de répartir cette richesse parmi autant de nécessiteux, j'allais dire. Et on comprend bien la frustration des professionnels de santé et d'où aussi le stress des officinaux qui savent qu'ils ont cette responsabilité et cette mission et qui est très, très difficile d'accomplir en toute sérénité.
Alors Karine Wolfthal, on reçoit beaucoup de questions très pratiques, mais j'imagine que celle-là, vous allez peut-être pouvoir y répondre. J'en ai reçu une d'Hélène au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On va l'écouter.
Bonjour, j'aimerais savoir si le savon sans savon est un désinfectant aussi efficace que du savon normal. Merci.
Alors Karine Wolfthal, le savon sans savon, alors vous vendez du gel quand vous pouvez en fabriquer aujourd'hui ou quand vous recevez, le savon sans savon, c'est efficace ou pas?
L'idéal, c'est toujours le bon vieux savon de Marseille, j'allais dire, hein, où voilà les savons. Et puis c'est surtout le temps de nettoyage qui est important. Il faut rester plusieurs minutes à se frotter les mains entre les doigts jusqu'au poignet. Et ça c'est évidemment très très important. C'est l'avantage d'ailleurs du gel hydroalcoolique, c'est qu'il permet de se désinfecter beaucoup plus rapidement entre guillemets.
Et vous en avez refabriqué en pharmacie, hein?
On est en train d'en refabriquer. Les mesures de matières premières se sont assouplies, donc on va pouvoir, parce qu'en fait c'est ça qui nous a manqué, c'est les matières premières finalement. Il y a maintenant des arrêtés qui sont sortis qui vont nous permettre d'utiliser d'autres provenances de matières premières.
Jimmy Mohamed, une dernière question.
Oui, est-ce que vous ressentez l'effet d'annonce chloroquine avec des malades qui ne sont pas malades, qui sont malades, mais qui ne nécessitent pas la chloroquine? La chloroquine est réservée, notamment le plaquenil, pour les malades du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que vous avez l'effet d'annonce, justement, où les pharmaciens, du coup, subissent la pression des malades qui veulent absolument ce traitement?
Oui, absolument. Alors, c'est d'ailleurs pas que des malades, mais c'est aussi des prescripteurs. Qui prescrivent soit en préventif pour ce traitement je suis ravie qu'il y ait eu un arrêté qui soit paru ce matin qui va permettre d'encadrer et de réserver justement l'hydrochloroquine aux personnes qui en ont besoin et comme ce médicament est maintenant en rupture.
Parce que je crois que vous êtes déjà en rupture de stock, hein, ouais.
Oui. C'est ça, et Sanofi a mis en place une procédure pour être approvisionné pour les patients qui en ont besoin, comme vous l'avez cité, comme le lupus par exemple.
Merci beaucoup Karine Wolfthal d'avoir été notre invitée. Je vous prie de bien vouloir transmettre un message de soutien de notre part à tous les pharmaciens d'officine ou en laboratoire. Il y en a aussi qui travaillent dans les labos, qui travaillent en ce moment d'arrache-pied. On les remercie du fond du cœur. Merci encore Karine.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors je pense que vous avez peut-être une radio derrière vous Catherine, parce que j'entends un retour, je m'entends deux fois. Ça me suffit de m'entendre une fois si vous pouvez couper.
Je vous jure que je n'ai rien Mélanie.
C'est pas vous? Bon bah c'est Jimmy alors, non. Peut-être, il veut m'entendre plus, encore mieux, je ne sais pas. Alors Catherine,
non,
aujourd'hui
fois,
on va aborder...
Aussi, hein, je suis bien.
C'est bon, largement, ok. Catherine, aujourd'hui on va aborder la question de l'abstinence sexuelle. Parce qu'avec le confinement, les personnes qui vivent seules n'ont a priori plus de rapports sexuels. On peut vivre comme ça sans faire l'amour du tout, c'est vital, c'est pas vital, enfin je sais pas, c'est peut-être une question bête.
Alors non, ce n'est pas une question bête puisque notre société nous laisse à penser qu'on ne peut pas vivre sans sexualité, que la sexualité c'est ce qui est l'expression de notre pouvoir, d'être des adultes actifs dans la vie de tous les jours et les uns vis-à-vis des autres. Et donc évidemment que nous pouvons vivre sans sexualité. La sexualité n'est pas vitale, elle n'est vitale que pour nos gènes, donc pour nous reproduire. Sinon, évidemment qu'elle est là pour nous faire du bien, elle est là pour créer du lien, de la conversation avec l'autre, la conversation physique avec l'autre. Mais on peut tout à fait aisément, même animé de pulsions et puissamment de pulsions, la mettre de côté pour un temps, longtemps s'il le faut, si le confinement devait durer, mais sans qu'il y ait de dommages aucun pour le corps. D'ailleurs, souvenons-nous, quand nous sommes adolescents, avec une montée de sève, comme on dit, particulièrement forte, particulièrement puissante, ce n'est pas tout de suite que nous nous sautons les uns sur les autres, nous mettons du temps, nous tournons autour de ce sujet, nous essayons de réfléchir si on pourra, on ne pourra pas, comment faire. Et donc tout ce temps, ces mois, ces années que nous passons à attendre sont pourtant des années où nous sommes puissamment animés de pulsions sans qu'il ne nous arrive quoi que ce soit. Au contraire, nous élaborons.
Jimmy ?
Vous savez qu'il y a une expression que j'aime bien, Catherine, c'est l'appétit vient en mangeant. Et vu qu'on ne mange pas beaucoup, est-ce qu'on a moins envie ? Ça marche à tous les coups. Hein. Est-ce que là,
vous
comme
mangez bien en ce moment, Jimmy, ça va ?
Point de vue,
j'attends qu'on se retrouve tous les trois dans notre studio et nous pourrons mesurer l'ampleur des dégâts.
Oui, c'est vrai, ça serait. J'en suis à plus 1 kg.
Alors, vous disiez l'appétit vient en mangeant, pardon, excusez-moi.
Mais du coup, si on mange moins, donc si on pratique moins, est-ce qu'on a moins envie? Est-ce que la libido, du coup, peut être en berne puisque finalement, on est un peu au ralenti?
Alors, ben, y a certains qui, obsédés par la question de leur libido, vont au contraire avoir le sentiment d'étouffer sous la pression de ce désir qui frappe à la porte, quand d'autres vont simplement la détourner sur d'autres choses et vont penser à autre chose, ce qui leur permettra de vivre paisiblement ce temps de confinement et ce temps d'abstinence. Pour autant, dès que reviendront les possibles, reviendront aussi les possibles de reprendre le cours des choses et la libido n'en sera absolument pas détruite, bien au contraire.
Et Catherine, est-ce que le fait de faire du sport en intérieur, bien sûr, on l'a compris, maintenant c'est un petit peu limité dehors, ou de faire, je sais pas, du yoga, est-ce que ça peut un peu canaliser, il y a des choses pour canaliser un peu cette énergie sexuelle, entre guillemets, qui pourrait pas être assouvie, être dépensée, je dirais?
Oui, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle, elle ne sert pas que la sexualité. Et il nous plaît à penser qu'elle n'est qu'au service de la sexualité et que c'est la sexualité que nous devons essayer de détourner ou canaliser. La réalité, c'est que nous avons une énergie de vie qui sert la sexualité, mais qui sert des tas d'autres actions et qui nous permettent, au même titre que la sexualité, de fabriquer des hormones merveilleuses qui nous font le plus grand bien. Donc la jouissance ne passe pas que par la sexualité. Le sport est un moyen aussi de fabriquer des endorphines, de fabriquer du plaisir que notre cerveau nous relaie et qui nous dynamise au quotidien.
Jimmy ?
Donc oui, faisons du sport, détendons-nous.
Il n'en fait pas, mais il va peut-être s'y mettre, mais là, cette fois-ci. Jimmy ?
Non, j'ai prévu de rester tranquillement à la maison. Et d'ailleurs, en fait, on a une question. C'est Benjamin Lévesque, le journaliste avec qui on travaille, qui justement nous a demandé si la masturbation était un bon moyen d'évacuer la pression.
Vous faites des trucs, là. Maintenant qu'on est chacun chez soi, c'est pas bien.
Voilà, on en profite. On balance Benjamin.
Mais du coup, est-ce que la masturbation est un bon moyen d'évacuer la pression ?
Eh bien, en tout cas, dans la perception que les hommes, parce que ce sont principalement, d'ailleurs, il y a les femmes aussi, mais les hommes principalement ont le sentiment que, je vous entends rire, Mélanie, que donc la pulsion sexuelle va déborder, puisque comme l'homme, dans sa sexualité, éjacule, il croit que s'il n'éjacule pas, il va gonfler, et qu'il faut absolument pouvoir évacuer un peu de cette pression au travers d'une masturbation et donc de son éjaculation. Alors, chacun y voit, bien sûr, midi à sa porte, et si c'est important pour Benjamin, et bien que Benjamin s'y adonne très tranquillement, il n'y a pas de mal, ni de honte, ni de culpabilité à avoir. Son sexe lui appartient, le sexe de chacun nous appartient, à nous libres d'en faire ce que nous voulons et les plaisirs qui nous appartiennent, qui sont les nôtres, et la créativité qui est la nôtre nous appartient. Et puis, de toute façon.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc, Benjamin a tout bien noté, hein, c'est parfait. Il vous remercie. On vous retrouve bien sûr demain Catherine. N'oubliez pas, vous qui nous écoutez, demain rebelote, nous restons mobilisés. Et envoyez-nous vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversées à l'Institut Pasteur, ils en ont bien besoin.